silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Damien. Comment vas-tu d'abord hein,
ça quand va même. Très bien, et toi?
Oui, oh bah écoute, oui. Pour vous que ça dure, hein.
Bah ouais.
Bon, on va voir si on ira bien comme ça aussi longtemps. En tout cas là, c'est grâce à nos auditeurs, hein, parce que dès qu'on est avec eux, tout change en fait, ça devient vachement agréable. C'est dommage hein, qu'on ne puisse pas rester tout le temps là, comme ça avec eux. Mais bon, c'est déjà mieux que rien quand même. Merci à vous mes chéris de nous recevoir chez vous. Nous sommes très très contents de vous retrouver comme ça toutes les semaines. Pour vous parler de quoi ?
Pour vous parler cinéma, car le mercredi c'est le jour des sorties et donc oui. On parle cinéma. Et on va débuter avec un film d'animation pour toute la famille, c'est Le Grand Jour du Lièvre.
Oui, Le Grand Jour du Lièvre. Oh ben oui, toute la famille, ça commence même à 3 ans apparemment. D'ailleurs j'ai appelé ma petite copine Naya pour qu'elle emmène son petit frère Luen. Oh ben ils vont se régaler, c'est sûr, hein, tous les deux, parce que c'est mignon comme tout. Très, très, très mignon. Le Grand Jour du Lièvre, donc, ça dure 48 minutes. Et c'est une animation, donc, c'est letton. Ça vient de Lettonie, c'est une animation lettonne. Voilà. Alors, on a deux réalisateurs sur cette affaire. On a Dess Ridus, qui est une réalisatrice de 49 ans. Elle a 19 ans de carrière, 8 tournages à son actif et c'est une lettonne. Et puis on a le complice, je dirais. On a Maris Brinkmanis, qui est un enchanteur. On dit de lui, oui c'est ça, que c'est un enchanteur d'images pour les tout-petits. Il a été découvert en France en 2008 grâce aux Trois Mousquetaires d'ailleurs. Il a 14 ans de carrière, il a 7 tournages, lui, à son actif. Donc, réalisateur, animateur, directeur de la photographie. Et il est très, très aimé, donc, hein, comme réalisateur pour les tout-petits. Enchanteur d'images, je trouvais que c'était joli comme expression.
C'est très beau, oui. Parce que c'est un film d'animation fait en stop-motion, ce qu'on appelle, c'est des marionnettes.
Voilà.
Sont déplacées au fur et à mesure.
Formidable.
Donc c'est vraiment un enchanteur d'images.
Ah oui, moi j'ai marqué très 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 joli, les personnages, la musique, tout est très joli. Alors, on a les petits pois. Alors oui, il y en a 4, hein. Il y a 4 animations. Alors, on a les petits pois de Dess Ridus. Alors, c'est l'histoire de 8 petits pois, des petits pois, qui profitent de la chaleur de leur cosse. Toute douillette, mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité. Ben oui, parce que les vers, faut bien qu'ils mangent aussi. Alors bon. Et alors, ça, celui-là dure 14 minutes. Voilà, il a été réalisé en 2020. Ensuite, j'ai Le Grand Jour du Lièvre. Donc, on retrouve le titre là, de Dess Ridus également. Il a réalisé en 2015. Il dure 10 minutes. Ça se passe à Pâques. Pâques, qui approche à grands pas, toute la famille Lapin travaille très dur même, hein, afin que les œufs soient prêts à temps. Ça bosse chez la famille Lapin. Et puis on a le troisième, c'est Vaikiki, de Maris Brinkmanis, notre enchanteur. Il a réalisé en 2017, ça dure 10 minutes. Un soir, dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. Là, là, t'as pas envie de manger du chocolat, Damien ? Ça fait envie, non ? Et puis le dernier, c'est le grain de poussière de Death Ridus, qui a été réalisé donc en 2018, qui dure 13 minutes. Dès qu'un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. Voilà, c'est beau comme tout, c'est adorable. Ah là là, ouais, ouais, 48 minutes. De petits bonheurs pour les petits et pourquoi pas même les grands qui accompagnent.
Le grand jour du lièvre. Et le deuxième film aujourd'hui, c'est pas dans la même ambiance. Là, c'est un film de Sylvie Hautecoeur,
oui,
qui s'appelle Une mère.
Une mère, oui, ça dure 1h27. C'est un drame, un thriller même français. Ben, Sylvie Hautecoeur, c'est une réalisatrice, scénariste, créatrice. Elle est également d'ailleurs actrice. Elle a 56 ans, elle est française, c'est son premier long métrage. Alors pour la situer, parce qu'on connaît sa tante, elle est la nièce de Josiane Balasko et donc elle est la cousine de Marie-Lou Berry. Bah, elle est dans une famille d'artistes, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, hein, dans une famille aussi talentueuse ? Elle a 30 ans de carrière, elle a 35 tournages à son actif, dont 34 tournages en réalité comme actrice, hein, puisque celui-ci est son premier long métrage. Une mère, c'est quoi une mère ? Aline n'a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître le jeune homme. Point de suspension. On ne peut pas en dire plus, surtout pas. Alors quand on sait que c'est Karine Viard qui a le rôle d'Aline, on se réjouit à l'avance. Elle a un tel talent, cette Karine Viard, bon sang. Et puis, on a Darren Muselet aussi dans ce film. On a Samir Ghesmi, on le connaît, bien sûr. Mais tous, hein, en fait, on les connaît. On les connaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les reconnaît aussitôt. On a Farida Ouchani, très connue aussi. On a Thierry Rousset, on a Pascal Edenka, qu'on connaît, mais leur bouille, hein, c'est sûr, on les reconnaît tout de suite, quoi. C'est dommage qu'on ne retienne pas tous les noms, mais c'est un joli casting. Pour moi, c'est vraiment... Alors, en fait, le Sylvie Hautecoeur, c'est une scénariste extrêmement chevronnée, hein. Elle a donc avec ce long métrage, son premier long métrage, avec une mère. Donc après, elle avait réalisé deux courts métrages avant, hein, Séparation et Paris Pantin, et qui ont très très bien marché, ce qui lui a permis de continuer. Alors en fait, le point de départ du film Une mère est né d'une question qui habite depuis longtemps la cinéaste : comment fait-on pour pardonner ? À partir de là, nous dit-elle, je me suis dit, quelle est la pire chose qui puisse nous arriver ? Et donc la plus difficile à pardonner. Que quelqu'un tue notre enfant. Ce thème du pardon rejoignait aussi un autre thème très important. Pour moi, dit-elle, celui du rôle de mère qui était déjà le sujet de son court-métrage. Effectivement, elle avait déjà... C'est un sujet qui lui tient à cœur. Les mères, la mère. Donc, c'est quoi être mère, nous dit-elle ? Comment accompagne-t-on son enfant en tant que mère et jusqu'où ? Une mère est donc une histoire très personnelle. Pas dans le sens factuel d'une histoire autobiographique. C'est ce qu'elle ajoute quand même. Hein. Mais c'est dans le sens des émotions qui traversent le film. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un très, 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 très beau film. Quand même, il n'y a pas de doute.
Et on écoute la bande-annonce.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ? Vitoni est sorti. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu, ce porc.
Merci.
On fait quoi ?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oublie tout ça.
Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils ?
80 km, c'est plus la porte à côté. Vous avez pas trouvé un plombier plus près ?
Et votre apprenti, il peut pas faire les travaux ?
C'est ce que c'est, ce type ? Il a fait 50 cabanes. Tu crois que c'est un enfant de cœur ?
Je suis bien chez Madame Morel ?
Oui.
Vous me reconnaissez pas ? Vous allez me dire que je suis là par hasard ?
Si je me prends la tête avec une adéquase,
je retourne au placard.
C'est peut-être ça que vous voulez.
Je vous qui meurt.
Tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer.
Il faut en mettre combien?
Quelques granules, ça suffit. Ce produit-là, il est radical.
Et s'il meurt, il y aura une enquête attirant en tout.
J'ai rien à faire d'autre que taper, c'est ça que vous voulez entendre?
Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne.
Une mère, donc, de Sylvie Hotker.
J'ai une petite phrase de Victor Hugo sur le pardon. Il nous dit, enfin, il avait écrit, « Mais si l'on peut pardonner, est-ce que ça vaut la peine de vaincre ?» On peut réfléchir là-dessus.
Très bien, merci donc pour cette phrase. Et maintenant, nous allons continuer avec un film. Ben là, c'est plus léger, plus joyeux.
Oui.
Ça s'appelle La Brigade, même si le thème est important. C'est une réalisation de Louis-Julien Petit.
Oui, c'est une comédie française. Ça dure 1h37. Alors, cette comédie, La Brigade, a eu un prix et 3 nominations au Festival international des films de comédie d'Alpes d'Huez, enfin de l'Alpes d'Huez, en 2022. Et il y a un prix d'interprétation pour Audrey Lamy, prix d'interprétation féminine. J'allais la citer tout à l'heure. Alors, tu as dit Louis-Julien Petit, réalisateur, scénariste, créateur français. Il a travaillé avec Sophie Bensadoun, qui est une scénariste, et Lisa Benguigui aussi, qui est une scénariste productrice. Donc, elles s'y sont mises, elles ont donné un petit coup de main à Louis-Julien Petit. Il a 38 ans, il a 8 ans de carrière, 6 tournages déjà. Et mais oui. Et alors, on lui doit un film. Je crois que tu l'aimes beaucoup, toi, ce film, Damien. Mais tout le monde, parce qu'il a beau, il a très bien marché. En 2019, Les Invisibles, avec Audrey Lamy, Corinne Maziero. Il y avait Noémie Lvovsky, enfin voilà, qui a eu une nomination à Angoulême à l'époque, avant-première. Ce film qui est très très, qui a beaucoup plu, hein, qui a très très bien marché, et qui voilà, qui parle de toutes ces femmes qui n'ont plus rien et qui font comme elles peuvent et qui essaient de survivre et de vivre, si possible. Tu t'en souviens de ça?
Tout à fait, oui, Les Invisibles.
On en avait beaucoup parlé.
Et donc là, on retrouve Louis-Julien Petit, retrouve Audrey Lamy.
Oui, 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 comme dans un rôle principal. Alors, c'est quoi la brigade? Ben, depuis toute petite, Cathy, qui est donc Audrey Lamy, rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu. Et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve, semble encore s'éloigner. Point de suspension, ou pas? Point d'interrogation, ou pas? Alors Audrey Lamy, donc, c'est Cathy Marie, d'ailleurs, c'est son nom. On a François Cluzet, on est content de retrouver François Cluzet, bon sang. Mais oui, alors lui, il est le directeur du foyer, hein, Lorenzo. On a Chantal Neuwirth, on a Fatoumata Kaba, c'est pareil, hein, on les connaît de vue dans des films, c'est un beau casting. On a Mamadou Kouata, on a Annick Kalombo, et ah oui, ils sont tous plein de talent. Voilà. Ben, de toute façon, Louis-Julien Petit, depuis justement Les Invisibles, qui était une comédie sociale, hein, il s'intéresse beaucoup à la question de l'intégration sous toutes ses formes en France. Voilà. Alors du coup, la productrice, je l'ai citée tout à l'heure, hein, Lisa Benguigui, scénariste également, lui a présenté Sophie Bensadoun, que j'ai citée comme scénariste, hein, elle est documentariste également, et ils ont eu cette idée d'écrire une fiction ayant pour thème l'intégration de mineurs non accompagnés étrangers par la cuisine. C'est pas mal, ça. C'est pas bête, cette idée-là, quand même. Parce qu'il nous dit, d'ailleurs, Louis-Julien Petit, « Je décide de partir en investigation. Et j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Grosjean, qui est professeure de cuisine, dans une classe de CAP, accueillant des mineurs migrants. Lorsque j'ai découvert son caractère bien trempé et sa pédagogie, tout s'est éclairci pour moi quant à la tournure que devait prendre le film. Pour arriver à en faire une histoire lumineuse, il fallait confronter ces jeunes au parcours difficile à un personnage haut en couleur. » Évidemment, ce sera Cathy, le personnage haut en couleur, Audrey Lamy. Ah oui, elle ne s'est pas économisée non plus dans ce film. Hein. Elle a un abattage assez extraordinaire quand même. Voilà ce qu'on peut dire, entre autres, sur la brigade. Eh oui, Ben, de son personnage, d'ailleurs, il dit quand même de Cathy, hein, égocentrique et sûre d'elle. Sa plongée forcée dans ce foyer, à des années-lumière de ses préoccupations, provoque dès le début du film des comiques de situation. Oui, on va voir ça d'ailleurs. Enfin, vous verrez, parce que moi, franchement, là, allez, oh là là, on va se détendre. On va aller regarder Cathy, la cantinière qui voulait tenir un grand restaurant et qui va trouver son bonheur, peut-être. Là, justement. La brigade.
À suivre, une tempura, un cannelloni.
La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité.
On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles.
Ils ont aimé ou pas?
C'est pas la question.
Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. Ben, c'est bon, ben moi je me casse.
Et du boulot, du taf, il y en a.
Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie à l'appareil. Bah vas-y, tu me rappelles alors.
Je cherche Lorenzo Cardi.
C'est pour le poste de chef de cuisine.
Le restaurant, du coup, le lieu de charme.
Ah, mais c'est ici, c'est un foyer.
Ah, c'est-à-dire?
Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé.
Bienvenue au foyer.
Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte.
Oh. Bonne nuit, alors.
Tu m'entends quand je parle comme ça?
Ah non, à peine, hein. À peine.
Mais quel enfer! Vous avez vu l'état de la cuisine? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules.
Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici. Ils attendent que ça.
On est là!
Mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien?
Ben, je t'avais dit, ils sont très motivés.
Vous avez des planches et des économes, là.
C'est quoi, économes?
Ils ne savent rien faire.
Ben oui.
Ça, c'est le cucu, ça, c'est la tête-tête. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est quoi, ça?
Ça, c'est stylé, mais...
Non, c'est pas stylé, c'est crade. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef.
Fastidieux égal?
Compliqué. Vends-moi ton tataki de veau, là.
La cloisée des semaines entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche.
J'ai rien compris.
C'est magnifique, ça! Non? Comment ça se passe à la plonge?
Fastidieux, chef!
Elle va être lourde. Je le sens qu'elle va être lourde.
La brigade par Louis-Julien Petit.
Sacré Audrey Lamy, elle n'a pas volé son prix d'interprétation filmique. En fait, ils sont tous bons. Hein. Ils auraient tous pu avoir un petit prix, quelque chose. Hein. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas énormément de prix. Mais c'est dommage. Ah oui, la brigade. Il faut aller se détendre là.
Ouais. Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM, www.re2m.com, dans la conversation autour du cinéma avec Anne. Et nous continuons avec un film de Christophe Baratier. Ça s'appelle Le Temps des Secrets. Alors là, c'est Pagnol, on est dans le sud de la France.
Et oui.
Mais, et c'est la suite, mais ce n'est pas les mêmes acteurs, parce que là, on est 30 ans plus tard. Quoi.
Ah oui, oui, non, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Le temps des secrets. À chaque fois, j'ai envie de dire le temps des cerises, mais ce n'est pas ça. C'est le temps des secrets. Alors oui, bah, oui. C'est une adaptation du temps des secrets, qui est le troisième tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. En fait, c'est son troisième tome, justement. Ça dure 1h48, donc c'est pour toute la famille, évidemment. Alors, Christophe Baratier, oh là là, mon Dieu, qu'on le connaît, ce grand réalisateur, absolument.
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, peux-tu nous rappeler ce qu'il a réalisé?
Oui, bien sûr. Il est scénariste également et producteur français. Il a 58 ans, 25 ans de carrière, 13 tournages à son actif. Et on lui doit, alors, un film qui a très, très bien marché, qu'on a adoré, Les choristes.
Et voilà.
En 2004, 2 nominations avec Gérard Jugnot. Il y avait Jacques Perrin aussi. et tant d'autres. Et puis en 2008, on lui doit Faubourg 36. Toujours Gérard Jugnot. Et puis il y avait Clovis Cornillac. Une très, très, très belle histoire. Très jolie, Faubourg 36. Il y avait un peu de tristesse dans Faubourg 36. Et puis en 2011, c'était la nouvelle guerre des boutons. Et oui, avec Laetitia Casta, Cadmerade, il y avait eu 7 nominations. Voilà, entre autres, j'allais pas vous donner les 13 tournages, mais disons les 3 qu'on connaît le plus, qui repassent à la télévision de temps en temps. quand si on regarde le cinéma à la télévision, et puis qui sont vraiment qu'on peut avoir en DVD, pas cher du tout. C'est pas une honte de les avoir dans sa vidéothèque, au contraire. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, oui, là, on va commencer, on va reparler de cette affaire, de cette histoire.
Le temps des secrets, donc.
Eh oui.
C'est la trilogie de Marcel Pagnol.
Bah oui.
Je ne sais pas si c'est une trilogie.
Non,
si.
Non, c'est...
Il y en a plus que ça.
Oui, voilà. Ça, c'est... En fait... Oh là là, j'arrive plus moi. Christophe Baratier, en fait, adapte le troisième tome
voilà.
Des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, comme je le disais tout à l'heure.
Il y a La gloire de mon père,
voilà.
Le château de ma mère.
Le château de ma mère. Et là, maintenant, on est en 1905, à Marseille. C'est en juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol, puisqu'il s'agit de son histoire, vient d'achever ses études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée. Ah, 3 mois! Une éternité quand on a cet âge-là. Et oui, car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ces chères collines d'Aubagne et d'Alloch. Je crois qu'on dit Alloch, hein. Il me semble qu'on ne dit pas Alloch. Si. Ah si, non, Alloch. Celle de la gloire de mon père et le château de ma mère. Donc c'était 1990, Yves Robert qui réalisait donc, ces deux films. Et il y avait Philippe Cobert dans le rôle du père. Il y avait Nathalie Roussel dans le rôle de la maman. Il y avait Julien Chiamatti. Alors, Julien Chiamatti, c'était lui qui jouait le rôle de Marcel enfant. Il y avait Didier Pin qui jouait le tonton. Et puis après, en fait, le premier est sorti en août 90, hein, La gloire de mon père. Et Le château de ma mère est sorti en octobre 90. Ils n'ont pas perdu de temps. Toujours Yves Robert et toujours, évidemment, les mêmes acteurs. Ça a très, très bien marché. On a beaucoup aimé. Il y a très peu. Très peu, je suis sûre, de nos auditeurs ne les ont jamais vus. C'est pas possible parce qu'ils sont repassés à la télévision. Sans cesse. Ils sont tellement beaux, on ne s'en lasse pas. Ça ne vieillit pas, ces films-là. Donc voilà. Alors, ces grandes vacances, évidemment, qui l'attendent, il va retrouver ses collines, ça le transporte de bonheur à Marcel. Il y retrouve la nature, les grands espaces, et surtout, son amie Lily, toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets. Les fameux secrets, le temps des secrets. Alors là, on a donc Léo Campion, qui joue le rôle de Marcel, qui est mignon comme tout, ce petit bonhomme, il est adorable, il a 12 ans, il a une petite frimousse adorable. On a juste envie de lui faire des gros bisous sur ses bonnes joues, voilà. On a Mélanie Douté, ben oui, qui joue la maman, qui joue Augustine. On a Guillaume de Tonquédec, tu l'as dit tout à l'heure, qui joue Joseph, le père. On a François-Xavier Demaison, qui lui... joue
l'oncle.
Le tonton Jules. Oui, savoureux. On a Anne Charrier. Elle, c'est la tante Rose. C'est celle qui va épouser le tonton Jules, d'ailleurs. Hein. C'est la sœur d'Augustine, la maman de Marcel. D'ailleurs, c'était en 90, c'était Thérèse Lyotard qui jouait le rôle de Rose. Et puis on a Baptiste Négrel aussi, qui joue son copain, Lily des Belons. En fait, c'est lui. Alors, en 90, c'était Joris Molmas qui jouait le rôle.
Qui était formidable.
Il était adorable, en plus, le gamin. Là, il était assez extraordinaire. Oh oui, 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 c'était très, très beau. Donc là, alors on a aussi dans les acteurs, on les connaît, Olivia Côte, on a Michel Villermoz, on a Paul Crochet qui jouait le rôle en 1990 de Michel Villermoz. Hein, alors, on se souvient du visage de Paul Crochet. Bah, Michel Villermoz ne lui ressemble pas, mais il y a quand même un petit quelque chose. Je ne sais pas, j'ai regardé pour voir les deux personnes côte à côte. J'ai mis les deux acteurs côte à côte sur mon écran pour voir. Et, alors, Olivia Côte et Michel Villermoz, donc, qui remplacent Paul Crochet, c'était monsieur et madame de Montmatour, voilà, c'était monsieur et madame. Montmajour, je ne me souviens plus trop. Oui, monsieur, j'aurais dû le noter, c'est monsieur et madame de Montmajour, voilà, c'était ça. Les rôles, le rôle dans le film. Ils ont tous tellement de talent, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? simplement, bah, ah oui, si, par contre, j'ai une, le petit Julien de 1990, le Julien Chamacho, qui jouait Marcel, a abandonné la carrière artistique tout de suite après.
D'accord.
Il a fait une grande école d'ingénieurs. Et puis aujourd'hui, il est ingénieur EDF à Marseille.
Eh bien voilà.
Je me suis un peu renseignée sur lui, je voulais savoir ce qu'il était devenu. Et oui, ben c'est un petit cerveau, hein. Il a fait une très grande école. C'est un ingénieur de haut niveau. Voilà. Et il vit à Marseille. Donc il a quand même gardé le sud. Bon, de toute façon. De Fanny, hein, de Marius. Voilà.
Et puis d'ailleurs, on va aller sentir la garrigue en écoutant la bande-annonce.
Oui, merci. 1h48, le film.
Eh oh, Lily !
Alors, tu dis quoi ?
Mais je suis content, et toi, tu dis quoi ?
Ah ben, alors, je suis content aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel ?
Mais que je suis content.
C'est parti pour les vacances !
Premier arrivé ! J'ai gagné !
Triché !
Ça va te faire tout drôle de plus le voir tous les jours derrière son pupitre.
J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir.
À toi,
à
Marcel.
À toi, Marcel.
Attends. Oh, misère. Une vraie bécheuse.
Peut-être bien qu'il aurait le béguin.
Faudra tout de même nous la présenter.
Il veut pas, parce que ça lui ferait honte.
C'est la vérité.
La vérité ? Tu sais même pas de quoi tu parles. Un beau sourire !
Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Buvant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous.
Le temps des secrets.
Ça donne des petits frissons, je trouve.
Et alors, est-ce que tu sais, parce que là, en voyant la bande-annonce, j'ai l'impression que la maison, c'est la même.
Oui, c'est, je pense aussi.
C'est vraiment la même.
Ah oui, parce que quand, moi aussi, j'ai regardé.
C'est un décor.
J'ai regardé. Non, je crois pas. Je crois que ça a été tourné sur place. Hein. Non. D'accord. Non, j'ai pas lu que c'était un décor.
Eh bien, c'est parfait. Non, donc, non, le non. Temps des secrets, Christophe Baratier à la réalisation. Et ça sort aujourd'hui.
Ah non, il joue pas dans les décors, Christophe Baratier. Non, mais c'est tout le temps. Ouais.
Ça a l'air vraiment d'être la même.
Si, je sais, j'ai regardé pas mal d'extraits. Je me suis dit la même chose. Et cette musique-là, qui, je sais pas, elle donne des petits frissons. On a envie de plonger dans les souvenirs comme ça, les souvenirs de Marcel Pagnol.
Rien que la musique de leur voix donne du soleil.
On a envie de. On voudrait que Marcel Pagnol soit là, qu'il apparaisse tout d'un coup et qu'il nous raconte.
Allez, raconte.
Ah ben oui.
Et maintenant, on change de décor, change d'ambiance et nous partons avec Michael Bay et son ambulance.
C'est le cas de dire, le titre ambulance. Eh bien oui, ça dure 2h16 hein, quand même. C'est un thriller, il y a de l'action. C'est américain, c'est interdit au moins de 12 ans. Donc c'est vraiment pour les fans de ce genre de film. Hein, il n'y a pas de doute, mais il est très bien fait. Je l'ai choisi parce que je trouve que Michael Bay là, fait du bon travail. Réalisateur, il est acteur américain, il est producteur également. C'est lui le père des Transformers. Les films Transformers là, qui sont très bien faits. Moi, j'ai eu le plaisir de pouvoir en regarder. Au départ, j'étais un peu réticente, et puis après, je trouve que c'est quand même extraordinaire au point de vue effets spéciaux. Enfin, c'est Transformers, c'est quand même quelque chose. Bon, il n'y a rien à dire, c'est bien fait, mais bon, c'est une forme de cinéma très spéciale. Hein. C'est action, action, action. Mais il y a eu beaucoup de succès. Hein. Le Transformer a fait des entrées incroyables dans le monde. Il y a beaucoup d'amateurs pour ce genre de film. Et là, donc, Michael Bay se lance dans l'ambulance. Alors, c'est quand même... c'est l'histoire de Will Sharp, qui est un vétéran décoré, qui fait appel à la seule personne indigne de confiance, j'ai bien dit indigne hein, de confiance, son frère adoptif, c'est agréable, Danny, pour trouver l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, le Danny, est un charismatique criminel au long cours qui, au lieu de lui donner de l'argent, lui propose un coup. Un coup, ce qu'ils appellent les coups fumants. Le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles. 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière, Cam Thompson. Pendant la course-poursuite infernale qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre surmotivées, postées aux quatre coins de la ville. Ils vont tenter de garder leurs otages en vie et éviter de s'entretuer, tout en exécutant l'évasion la plus spectaculaire que la ville de Los Angeles n'ait jamais vue. Voilà. Il y a beaucoup d'humour quand même aussi hein, chez Michael Bay, c'est ça surtout. Parce que même dans les Transformers, il y a beaucoup d'humour. Hein. Ça rend la chose un peu plus agréable, disons, cet humour justement. En fait, ce film est le remake d'un film danois, du même nom d'ailleurs, du réalisateur danois Lauritz Munch Petersen. Et ce premier film est sorti en 2005. Donc il en a fait un remake, Michael Bay. Voilà. Alors on a Jack Gyllenhaal, qui est très connu, hein, qui joue Danny. On a Yahya Abdul-Mateen II, qui joue Will Sharp. On a Elsa Gonzalez dans les rôles principaux et Gareth Dilla Hunt. Ils m'ont gâté avec les noms, là, je trouve. Hein. Je suis gâtée pour la prononciation, quand même. Mais il y en a deux qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu dans tous ces films d'action. Voilà, pour les amateurs, quand même. Et apparemment, il y en a, donc il faut penser à eux aussi. Bah, ça change les idées aussi, en même temps. Il n'y a pas à réfléchir hein, pendant les films d'action. Voilà.
Ambulance, donc. Maintenant...
Oui. Je ne veux pas dire qu'ils sont bêtes quand je dis qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, de penser. Ça veut dire qu'il faut se laisser aller, il faut regarder et basta. Voilà. Il faut regarder les effets spéciaux, surtout. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bête. Hein. Non, non. Il y a plein d'humour, justement. C'est ce que je disais. Voilà.
Et maintenant, nous retrouvons un drame. Un drame de Cisterne.
Ailier Cisterne. Oui.
Et c'est de 16 ans, parce qu'en ce moment, on commémore les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie.
Oui.
Et ce film parle de ce thème-là. Et nous, justement. Il s'appelle De nos frères blessés.
Oui, justement. C'est pour ça que je voulais absolument le mettre de côté. 1h35, De nos frères blessés, c'est un drame français donc. Ailier Cisterne, c'est un réalisateur, scénariste, auteur français. Il a 41 ans, il a 18 ans de carrière, il a déjà tourné, oui, il est 10 tournages quand même déjà à son actif. Il a 2 prix et 7 nominations. Il avait eu le prix Jean Vigo, qui est un très joli prix, pour un court-métrage en 2008 qui durait 30 minutes. Et il avait eu donc Jean Vigo et le lutin du meilleur scénario. Et ça s'appelait Les Paradis perdus. Il y avait Julie et Philippe Duclos qui jouaient dans ce court-métrage, qui sont le père et la fille. Et on les connaît. Quand on les voit, on les connaît. Donc ce court-métrage lui a permis de continuer d'autres courts-métrages jusqu'à arriver au long-métrage. Donc là, comme tu disais, on est en 1954. Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui, elle part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. C'est l'histoire vraie du combat d'un couple pour la liberté. C'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine, hein, le combat des gens pour leur liberté, des couples aussi d'ailleurs. Donc, enfin, dans toutes les guerres, je pense qu'il y a toujours pour les couples et même les gens qui ne sont pas en couple, il y a toujours un combat pour la liberté, bien sûr. Et oui, le tout, c'est de la retrouver justement après, quand tout est terminé, d'avoir retrouvé sa liberté. Alors, c'est un casting parfait. On a Vincent Lacoste qui joue le rôle de Fernand Yveton. Décidément, depuis qu'il a débuté, Vincent Lacoste, il nous emmène de surprise en surprise. J'ai l'impression qu'il sait tout jouer.
Ah oui, il sait tout faire.
Tout.
La comédie, du drame.
Oui, absolument.
Il est parfait.
Il est bourré de talent, vraiment. Quoi. On a Vicky Cripps dans le rôle d'Hélène, Hélène Yvetot. On a Jules Langlade. On a Marc Brunet, Thomas Ducasse dans les rôles principaux. Ils sont tous excellents. C'est pour ça que je disais que le casting était parfait. Attention, c'est quand même, il n'est pas interdit à moins de 12 ans ni quoi que ce soit. Mais je pense que c'est quand même un film assez dur. Chacun se connaît, hein, on connaît nos limites, mais c'est un très 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 beau film sur ce sujet. Elie Cisterne a fait un sacré bon travail. En fait, c'est De nos frères blessés, c'est adapté d'un roman, du roman du même nom d'ailleurs, de Joseph Andras. C'est un écrivain français, hein, il a 38 ans, il a déjà écrit 7 romans. Il a commencé en 2016 à écrire. Il est paru d'ailleurs, ce roman-là, De nos frères blessés, en 2016, aux éditions Actes Sud. Et il a été lauréat du prix Goncourt du premier roman. On peut le trouver facilement, hein, pour ceux que ça intéresse, mes chéris, ceux qui aiment lire le livre avant de voir le film, ou le contraire, voir le film et lire le livre après. Donc, Joseph Andras, hein, comme ça se prononce. Et ça s'appelle donc De nos frères blessés, le livre, et il est sorti en 2016. Voilà, donc, et il a eu ce prix Goncourt du premier roman. Et c'est un... Voilà, quand on lui a parlé de ce roman, il a décidé d'en faire un film. C'est une histoire très... En fait, pour le rôle de Fernand, le réalisateur voulait un acteur qui incarne la jeunesse et la sincérité du personnage, justement. Alors, il dit des choses très jolies sur Vincent Lacoste. Il dit que c'est un acteur extraordinaire dans le corps d'un homme ordinaire. Il est en évolution constante. C'est un vrai travailleur qui n'en donne pas l'impression. Et il a cette immense qualité d'être absolument là, dans son personnage, sans avoir besoin de souligner son implication. Il n'est pas dans la mégalomanie de son personnage. Il a un naturel, une ingénuité, une forme d'humilité qui fait qu'on croit totalement à ses personnages. Très beau ce qu'il dit sur Vincent Lacoste. C'est pour ça que je voulais quand même redire ce qu'il a dit en interview, ce réalisateur. Voilà. Ben, on espère qu'il le reprendra pour un autre beau film, que Vincent Lacoste sera peut-être son acteur fétiche, après tout. Et oui, voilà ce qu'on peut dire sur De nos frères blessés.
Et on écoute la bande-annonce.
Oui. Oui, merci, oui.
C'est pour moi ?
Oui. Vous ne fumez pas ?
Si.
Alors, vous venez d'où ?
Algérie. T'es où, là ?
Dans tes bras. Chez moi. Sur ton épaule.
Bon, santé. Alger, c'est chez toi. Je t'aime.
Et les moustons ?
Votre mari a posé une bombe dans son usine.
Vous fréquentez des Arabes ?
C'est un pays arabe. Je vois pas comment je ferais autrement.
Vous pensez que c'est un pays ?
Il apparaît que vous avez intégré un groupe relié au Front de Libération Nationale.
Des gens que je connais pas, ils sortent dans la rue la nuit, ah, regarde-moi!
Bah, si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. N'importe où ailleurs, notre vie sera foutue aussi. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lutte pas tous ensemble, c'est foutu.
Je suis ici parce que je voulais qu'on soit heureux, qu'on ait une vie ensemble.
Envers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand Yvetot.
Le procès de votre mari était une mascarade.
Il a tué personne.
Alors il faut faire savoir son histoire.
Mais tu as fait quoi ? Hein, tu t'es battu ? T'es pas un héros parce que tu t'es battu. Tu comprends ça ?
Regardez, j'ai été torturé !
Mais lâchez-la !
Ça fait plus de 100 ans qu'il nous traite comme des chiens. Il faut en finir.
Le film évoque les questions taboues, hein, de cette guerre, comme les arrestations arbitraires, la torture, la guillotine, hein, qui dénote quand même une république se comportant comme une dictature. C'est quand même... Alors, le tournage a eu lieu en Algérie, hein. D'ailleurs, il nous dit, le réalisateur, que le film est coproduit avec l'Algérie et a reçu le soutien du ministère de la Culture de la ville d'Alger. Ils ont tourné donc avant le Irak de 2019. Irak, ça veut dire les scènes de manifestation. Hein. Ils appellent ça le Irak. Et ils ont conçu le film avec l'aide d'Algériens de tous bords. Ça, c'est important de le dire quand même. Il avait raison de le signaler, Elie Cisterne, le réalisateur, parce qu'il ajoute que sans la volonté du pouvoir, on n'aurait rien pu faire. Mais sans l'aide d'une jeune génération plus indépendante non plus. Il fallait les deux, l'aide du pouvoir et l'aide de cette jeune génération indépendante. Il faut savoir que là-bas, le personnage principal, Yves Thon, hein, c'est son nom de famille, est considéré comme un moudjahid, c'est-à-dire un combattant révolutionnaire. Il est très respecté par les intellectuels et les anciens combattants. Alors ce qui est intéressant quand on arrive en Algérie avec un tel sujet de film, c'est que tout le monde était très bienveillant. Mais chez les plus jeunes, la réaction c'était « Ah, encore un film sur la Révolution !»« Ah, encore un film d'anciens combattants !» Voilà, il y a un fossé incroyable, nous dit-il, entre la sous-représentation de cette guerre chez nous jusqu'à maintenant et son omniprésence là-bas. Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est vrai qu'en France, on n'en parle jamais. Quasiment, enfin bon, la guerre d'Algérie, c'est resté quelque chose de très, presque secrète. Hein. Alors que là-bas, ils en parlent tout le temps. Ça, on l'ignorait, grâce au réalisateur et au scénariste, là, on le sait maintenant. Nous, on n'en parle pas, mais là-bas, ils en parlent et c'est, voilà. C'est important quand même, ça aussi. C'est un très beau film. À voir si on est intéressé par l'histoire de la guerre d'Algérie, justement, par cette période, qui est une période incroyable.
De nos frères blessés. Oui. Et maintenant, toujours un drame qui s'appelle Bruno Reidal, Confession d'un meurtrier.
Mais oui, on arrive à ça quand même. Hein. C'est un drame historique, hein, français, ça dure 1h41. C'est interdit au moins de 16 ans. C'est pas 12, hein, c'est 16. Ça, c'est important, mes chéris, c'est à noter. Il faut faire très attention à ça. Il y a eu un prix. Il y a le prix, ils ont... Oui, c'est ça. Le film a reçu le prix Fondation Gann. Ensuite, il y a deux nominations. Il y a une nomination pour la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2021 et la nomination pour les séances spéciales à la Semaine internationale de la critique 2021. C'est pas mal, hein, c'est assez joli, là. Donc, c'est Vincent Leport, le réalisateur. C'est un réalisateur, scénariste, producteur associé. Il a 36 ans. Il est français. C'est son premier long métrage. Après quelques courts-métrages qui ont très, très bien marché. Donc, c'est quand même... Alors, c'est un... Ça se passe... Allez, on repart en arrière. On arrive au 1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu'au jour du crime. L'enfant de 12 ans s'appelait François Royac. En fait, le film s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu dans le Cantal en 1905. Un jeune et chétif séminariste de 17 ans, Bruno Reidal, a décapité un enfant de 12 ans. Le corps a été retrouvé à la sortie d'un petit village. Et il faut savoir que Bruno Reidal, justement, après, les médecins quand il était en prison, les médecins l'ont pris en main, si j'ose dire, pour essayer de comprendre ce qui l'a amené à ce geste. Et en fait, déjà enfant, il se sentait meurtrier. Il avait des envies déjà. Il avait des envies de tuer. Il a lutté contre ses pulsions meurtrières. Jusqu'à sa mort, toute sa vie, il a lutté contre ces pulsions-là. Alors, on a Dimitri Doré, qui joue le rôle de Bruno Reidal, il a 17 ans d'ailleurs. On a Jean-Luc Vincent, qui joue le rôle, enfin, il y a deux docteurs qui sont très bien, les acteurs qui sont très bien dans le film. Jean-Luc Vincent, c'est le docteur Lacassagne. On a Dominique Legrand, c'est le docteur Papillon, et Antoine Brunel, c'est le docteur Rousset, qui vont donc l'interroger, s'occuper, essayer de comprendre surtout. On a Romane Villedieu qui joue le rôle de Bruno, mais à l'âge de 10 ans. Et puis on a le Alex Fanguin, qui joue le rôle de Bruno à l'âge de 6 ans. Donc on a 6 ans, 10 ans et 17 ans. C'est titré « Un récit fascinant », le choc du Festival de Cannes. On en ressort secoué, la naissance d'un immense acteur, Dimitri Doré. C'est pour ça que c'est interdit au moins de 16 ans. Hein. C'est que c'est pas évident du tout. Et voilà. Ce pauvre garçon qui était en proie à des pulsions meurtrières constamment depuis tout petit d'ailleurs. Il y a des scènes où on le voit enfant, il regarde un camarade il y a une voix qui explique. Enfin, il a déjà des. Et c'est une histoire de chromosome, ça. J'avais lu un truc là-dessus. C'est un chromosome en moins ou en plus qu'on a à la naissance, quand on naît, et qui va peut-être faire de nous un meurtrier, un tueur, à un moment ou à un autre. Juste un truc chimique, hein, un truc vraiment. Une histoire de chromosome. J'avais lu ça, c'était assez. Ça aussi, c'est fascinant quand même. Enfin, ben voilà. Donc, si ce fait divers, si vous le connaissez peut-être, mes chéris, il y en a peut-être qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas. C'est vrai, tu connaissais toi, Damien ?
Non.
Et si ça vous intéresse de voir comment les médecins vont essayer de comprendre ce qui, pour l'époque, était déjà pas mal d'ailleurs d'essayer comme ça de comprendre justement son enfance, d'écouter qu'il relate sa vie. Pour l'époque, je trouve que c'était pas mal parce que qui s'intéresse comme ça à lui. Eh oui, c'est terrible.
Bruno Rédal dans Confession d'un meurtrier.
Oui.
Et maintenant, nous allons retrouver un film de Bully Lanner. C'est, je sais que tu aimes beaucoup cet acteur qu'il a également réalisateur.
Ah oui, oui, Bully Lanner, bah oui, bah parce qu'il a un talent fou. Et puis que je l'ai écouté en interview quelques fois. Ça m'est arrivé de l'écouter justement. Et il est très sympathique, il est d'une simplicité et d'une authenticité extraordinaire. Et il a un sourire extrêmement sympathique. Et voilà, il a un discours très sympathique aussi. Donc forcément, je lui trouve. Beaucoup de talent, voilà. Bully Lanner. Oui, alors L'ombre d'un mensonge, 1h39, c'est un drame romancé, c'est belge et français. Mais oui, puisqu'on sait que Bully Lanner, c'est belge, hein. C'est un acteur belge, réalisateur cette fois. D'habitude, il est plutôt acteur, scénariste belge. Il a 56 ans. Il a 31 ans de carrière. Alors, il y a 89 tournages à son actif. Pour lui, il a eu 11 prix et 38 nominations comme réalisateur et comme acteur. Et il a 6 prix aussi comme acteur quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un très gros talent. Je ne fais pas d'effort quand je dis que je l'aime beaucoup parce qu'il a énormément de talent de toute façon. Donc, ce n'est pas... J'essaie pas de dire du bien de quelqu'un qui est très mauvais. Hein. C'est facile quand les gens sont bons de dire du bien. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc il a longs métrages, 8 à son actif. Donc 3 courts métrages entre 1999 et 2001. Et les 8 longs métrages, c'est entre 1995 et 2021. Voilà. Et comme acteur quand même, il a tourné dans 78 films quand même, 89. Moins 8, 11, ça fait 78 films entre 1990 et 2023, parce qu'il y en a un qui va sortir en 2023 avec Bully Lanner comme acteur. on l'annoncera le moment voulu, n'est-ce pas, Damien ?
Tout à fait.
Voilà. Oui. Donc là, il s'agit de quoi ? L'ombre d'un mensonge. Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne. Alors, on sait ce que c'est, hein, la communauté presbytérienne. Enfin, c'est une dénomination protestante, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, et cette communauté presbytérienne se trouve sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'île, il retrouve Millie, une jeune femme de la communauté, qui s'occupe de lui. Alors qu'il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'il s'aimait en secret avant son accident. On ne va pas en dire plus, hein, parce que là, quand même, il y a un petit suspense. Michel Ferlet nous joue donc Millie, c'est une grande actrice britannique. Beaucoup de succès là-bas, chez elle. Ouais, elle est excellente. On a alors Bully Lanners, il joue le rôle de Phil. On a Julianne Glover aussi, qui est un acteur britannique. On a Andrew Steele, un autre acteur britannique. On a Clovis Cornillac. Oui, on est content de voir Clovis Cornillac, un grand acteur également. Et alors, juste, oui, le Bully Lanners, j'avais retenu quelque chose quand même. En 2011, il avait réalisé Les Géants. C'était une histoire de trois adolescents qui commençaient la plus grande et périlleuse aventure de leur vie. Et ça, qui a eu un succès, beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque. Il y a eu 18 nominations quand même dans tous les festivals et 5 prix. Hein, avec Zachary Chassoriot dans les rôles principaux. Il y avait Paul Bartel 2 aussi. Karim Leclou, on reconnaît Karim Leclou. Il y avait Marthe Keller aussi, formidable. Voilà, donc je voulais le rappeler, ça, parce que celui-là, ce film m'avait beaucoup plu, me plaît beaucoup. Donc, le film est titré « Une histoire d'amour envoûtante, une romance subtile et délicate, une pure beauté ». Alors, il a été aussi, il a été vu aussi au Festival de Chicago, où il a eu le prix de meilleur acteur, meilleure actrice, pour Michel Ferlet, et Bully Lanners. Il a été sélectionné également à Toronto. Il a été sélectionné à La Roche-sur-Yon, le grand prix du jury. Voilà, c'est un film qui plaît, qui... Je pense que ce film va avoir quand même un certain succès. Bully Lanners est quand même très connu. En tout cas, en Belgique, c'est sûr qu'il va, ça va marcher du tonnerre. J'espère que ce sera pareil chez nous et j'espère aussi en Angleterre, justement, puisqu'il y a des acteurs très connus britanniques. En fait, il avait un fantasme, Bully Lanners. Ben oui, lui aussi, il a le droit d'avoir des fantasmes, après tout. Depuis des années 2000, il voulait faire un film en Écosse. Eh ben oui, un pays où il se rend chaque année. J'accorde, dit-il, beaucoup d'importance au décor et au paysage, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très puissant dans ceux de l'île de Lewis. J'avais donc envie de tourner là-bas, mais... sans avoir une idée du scénario qui m'aurait donné la légitimité de tourner dans un pays qui n'est pas le mien, avec une culture qui n'est pas la mienne et dans une langue qui n'est pas la mienne. Donc, ma première intention était de tourner un polar. Et puis, une fois installé sur place, pour écrire le scénario, en écoutant le morceau « This Blood » de Saul Savers, je ne sais pas si tu connais Saul Savers.
Non.
Toi qui connais plein de musique et de musiciens. C'est pour ça, moi non plus, hein, ça, je ne connais pas. Mais enfin, en tout cas, lui, il le connaît parce qu'il l'écoutait. Et en l'écoutant et en regardant les paysages, je me suis rendu compte que ce n'était pas un polar que j'avais envie de faire, mais une histoire d'amour. Voilà. L'île de Lewis, en fait, c'est un personnage à part entière du film. Hein. C'est important. Elle est importante, justement, dans ce film. C'est un endroit particulier par rapport au reste de l'Écosse. C'est ce qu'il nous dit. Cette île est éloignée du pays et la culture gaélique, je savais que j'allais le faire, est très forte et le tourisme est peu développé. Ah, oui, donc ça rend la chose assez intéressante, ça, quand même. Voilà, en tout cas, quand il a choisi Michel Ferlet, l'actrice britannique, il voulait une comédienne, dit-il, à la fois belle et austère. C'est une grande comédienne et je n'en connais pas beaucoup qui auraient assumé le rôle. Ce qui prouve qu'elle a un rôle pas facile du tout. Ça donne déjà une petite idée là de ce qu'on va voir dans L'ombre d'un mensonge de Bully Lanners. Et oui.
L'ombre d'un mensonge donc. Et maintenant, nous partons avec Patrick Attali et Thibaut Miche pour le morceau Compatible.
Oui, Compatible, comédie dramatique française. Alors oui, il y a une co-réalisation, Patrick Attali, oui, d'un côté, voilà, et Thibaut Miche de l'autre. Donc Patrick Attali, c'est un réalisateur français, auteur, producteur, autodidacte en littérature et au cinéma également. Donc, il n'a pas fait d'école non plus. Je crois que la semaine dernière, on avait parlé, je crois, d'une réalisatrice qui était autodidacte aussi. Donc, c'est le deuxième autodidacte, parce que c'est vrai qu'ils font tous quand même des écoles, la FEMIS, tout ça. Bon, des écoles très connues. Et puis, Thibaut Miche, donc, Ah oui, alors Patrick Attali, on dit de lui que c'est un artiste touche-à-tout. Voilà, ça c'est pas mal. Et Thibaut Miche, réalisateur, directeur de la photographie, metteur en scène également français. Il a son actif, lui, il a 3 courts-métrages et 1 long-métrage d'ailleurs. Donc c'est le premier long-métrage compatible qui plaide de la tolérance entre le judaïsme et l'islam. C'est la première fois qu'on a... de ce film, en fait, Patrick Attali a écrit un livre qui est sorti en librairie. Si on le veut, compatible, il est sorti en librairie. C'est l'histoire de Déborah et Rachid. Ils ont tous deux grandi dans une banlieue lyonnaise où tout le monde se connaît. Leurs religions et cultures respectives pèsent sur eux et interdisent leur amour naissant. Deux religions auxquelles tous semblent s'opposer, mais finalement pas si différentes l'une de l'autre. Bravant les interdits familiaux et religieux, ils se retrouvent le soir d'une nuit étoilée. Trahison, péché, l'interdit a été franchi. De cette nuit d'amour, 2 jumeaux sont venus au monde. Alors on a Samir Harag dans les rôles principaux, Hicham Harag, et oui, la même famille. Agnès Godet, on a Eric Soubelet, on a David Benamou, on a Steve Attali, on a aussi Laura Chab, qui joue d'ailleurs le rôle de Déborah, et Rachid, c'est Noamen Mahamar. Parce que c'est un peu particulier au début, on les voit eux, Rachid et Déborah, et après on va faire la connaissance des jumeaux, adultes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit à la fin que de cette nuit d'amour, 2 jumeaux sont venus au monde. Mais ce n'est pas si simple. Que ça, eh oui, 1h25, très beau. Ce thème là, cette tolérance entre judaïsme et islam qui est fortement montré dans ce film, vous intéresse, il est pour vous, hein, parce qu'il est bien fait, il est vraiment pour vous, compatible
donc, oui, et maintenant c'est Manuel Shapira qui nous propose le Tropique de la violence.
Oui, décidément, 1h32. Pardon, c'est un drame français. Il y a un avertissement, des scènes, des propos et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Manuel Shapira, il a travaillé là avec Delphine de Vigan, qui est une grande scénariste.
Alors lui, écrivain aussi.
Ah oui, écrivain, tout à fait. Delphine de Vigan, elle est connue. Elle est très connue. Donc il a réalisé, c'est un réalisateur, scénariste, producteur français. Il a 22 ans de carrière, 14 tournages, à son actif, 5 prix et 16 nominations pour ses courts-métrages. Il a 10 courts-métrages qui ont été reçus vraiment d'une façon extraordinaire entre 1998 et 2012. Et en 2016, on lui doit un long-métrage Damoclès avec Manu Payet, Laetitia Spigarelli. C'était une histoire d'une voyante qui dit au personnage principal, vous allez rencontrer le grand amour et également commettre un crime. Voilà, c'était... Mais, c'est une comédie, hein, Damoclès. Voilà. Enfin, c'est un peu curieux qu'une voyante lui dise ça. En même temps, le grand amour et le meurtre... pardon, ça fait beaucoup en même temps. Et en 2018, il a réalisé... Manuel Shapira, la saison 1 de la série Ad Vitam sur Arte, avec Yvan Attal, Anne Azoulay, pour ceux qui connaissent cette série, 2018, c'est lui qui a fait la première saison. Donc, nous sommes à Mayotte. Mayotte, c'est un archipel de l'océan Indien. Enfin, c'est situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. Voilà, c'est un département, une région française. Et entre autres, c'est le département le plus pauvre de France, Mayotte. Ah oui, il y a beaucoup de pauvres et beaucoup de bidonvilles à Mayotte. Donc on se trouve là à Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, je suis trahie par les cordes vocales. À la mort de sa mère, le jeune Moïse rejoint un bidonville peuplé de mineurs entièrement livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s'embraser, le destin de Moïse bascule. Moïse, c'est Gilles Allan, Attends, il a un nom très long. Hein. Gilles Alan Galamou Hipposrat. Donc, c'est lui, Élise. On a Moïse. On a Céline Salette, on la connaît, hein, grande actrice française. On a Dali Ben Salah, qui est un acteur franco-algérien. Fazal Bakar Moualim aussi, dans les rôles principaux de ce film. Donc, c'est adapté, ça aussi, celui-là aussi, ce film est adapté du roman du même nom, écrit par Natacha Apana. C'est une auteure, enfin, elle est franco-mauritanienne, elle a 48 ans, elle est journaliste aussi, également, romancière journaliste. Donc, c'est un roman, c'est ce que nous dit le réalisateur, c'est un roman très intense, à la fois beau et dur, hein, qui se déroule à Mayotte, donc on l'a dit, un département très pauvre. Donc, il a été immédiatement captivé, ce réalisateur, par ces histoires de bandes de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, pardon, sur cette île du bout du monde. Ben oui, ça ressemblait à ce qui se passe dans le film « La cité de Dieu », mais en France. Un territoire qui semblait irréel et pourtant, en tant que cinéaste, nous dit-il, j'essaie de raconter l'absurdité du monde dans lequel la violence surgit d'un seul coup. Et cette île française incarne ces problématiques que j'ai voulu retranscrire. C'est curieux cette phrase où il dit « l'absurdité du monde dans laquelle la violence surgit d'un seul coup ». C'est ce qu'on est en train de connaître, ça aussi, cette violence qui arrive d'un coup comme ça. C'est ce qu'on vit en ce moment, c'est ce que... Enfin, on vit par image interposée, mais voilà, tout d'un coup comme ça. Il a raison sur la violence. C'est pas mal sa définition de la violence qui arrive d'un coup.
Tropique de la violence.
1h32, je ne sais pas si je l'avais dit.
Et un dernier film pour aujourd'hui, oui. D'Omar El Zouhaini, ça s'appelle Plume, au pluriel.
Plume, les plumes. Plume. C'est un, oui, comédie dramatique, c'est fantastique aussi. C'est français, égyptien, néerlandais et grec. Il y a un prix et 4 nominations. C'est le grand prix Nespresso pour le réalisateur, bien sûr, à la Semaine internationale de la critique 2021. Et il y a une nomination au Festival de Cannes, Caméra d'or 2021. Omar El Zouhaini, tu l'as dit, qui a travaillé avec le scénariste Ahmed Amer II, qui est un grand scénariste aussi. Donc lui, Omar El Zouhaini, c'est un réalisateur scénariste égyptien. Il a 3 ans de carrière et 2 tournages à son actif. Voilà. Son film Plume est interdit au moins de 12 ans. Nous avons, alors, l'histoire. Nous avons une mère passive, d'un côté. Hein. Nous avons cette mère passive dévouée, corps et âme, à son mari et ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant l'anniversaire de son fils de 4 ans et c'est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s'abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. D'où le titre Plume, hein, puisque la poule a des plumes. La mère n'a d'autre choix que de sortir de sa réserve et d'assumer le rôle de chef de famille. Alors c'est titré déroutant, sidérant et brillant. Un coup de maître décapant, quelque part entre Jack Tati et Aki Kaurismäki, le fameux réalisateur finlandais là. Qui est... voilà. C'est entre les deux, hein, entre Jack Tati et lui. Alors on a Demiana Nassar dans le rôle principal, Sami Bassouni, on a Fadi Mina Fozi. Ce sont des acteurs égyptiens, hein, on s'en doutait quand même. On a Abo Sefen, Nabil Veza, ils ont des noms très longs comme ça. Très jolis d'ailleurs, mais c'est long. Voilà, dans les rôles principaux, cette comédie dramatique fantastique. 1h52, je crois que je l'avais déjà dit, voilà. Pour les plumes. Plume.
Et pour terminer, ça va être un documentaire de François Bunuel et Adrien Solan. François Bunuel... l'acteur fan de littérature.
Ah oui, le réalisateur animateur.
Qui nous propose donc un documentaire. Seule la Terre est éternelle.
Ce qui est certainement pas faux d'ailleurs, le titre, documentaire français, oui, 1h52. Alors, il co-réalise, tu l'as dit. Alors, il y a François Bunuel d'un côté, réalisateur, animateur, télévision, radio, hein, on sait. Il a 52 ans, il est français. Il est journaliste aussi, il est critique littéraire, il est producteur. Voilà. Il produit d'ailleurs, il anime et il produit sur France 5 depuis 2008 l'émission littéraire hebdomadaire La Grande Librairie. Et puis, il est avec Adrien Solan, qui est un réalisateur français metteur en scène, dont c'est le premier long métrage. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, au cœur des grands espaces, ce documentaire. Il raconte sa vie, qu'il a brûlée par les deux bouts, et qui révèle une autre histoire de l'Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme, c'est l'un des plus grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison. Écrivain, poète, essayiste américain, il est décédé en 2016 à l'âge de 79 ans. Et oui, alors, on a des titres quand même. On a « Péché capitaux » en 2015, « The Big Seven ». Et traduit titre français chez Capitaux. Et en 2008, c'était titre français Une Odyssée américaine. Et là-bas, c'était The English Major. Deux livres qui ont eu un succès formidable. Voilà. Jim Harrison, il est lui-même dans le documentaire. C'est Shakespeare qui a dit d'ailleurs, il le cite, nous sommes aussi la nature. C'est Jim Harrison qui cite Shakespeare. Et lui, il répond justement à cette phrase de Shakespeare, « C'est une vérité fondamentale. » Et il ajoute aussi que l'histoire de l'Ouest américain, c'est aussi de la cupidité. Et son épitaphe préférée à Jim Harrison, c'est « Nous aimons la terre, mais nous n'avons pas pu y rester. » C'est titré « Somptueux et poignant, splendide et bouleversant. » Une formidable ode à la nature, revigorant, superbe. Et voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties cinématographiques. Et on se retrouve mercredi prochain, Anne, à 11h, pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Oui, merci, merci Damien. Merci pour tout, pour tes bandes annonces, pour ton aide et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, tu ne seras donc pas frappé, puisque la semaine dernière, j'ai failli te frapper, mais je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, tu es mignon comme tout. Donc tu ne le seras pas.
Merci.
Rassurez-vous,
beaucoup.
Mesdames et mesdemoiselles. Merci, je t'en prie. Fais attention, fais attention. Bon, en tout cas, bonne semaine à toi aussi, oui. Ben, mes chéris, passez une bonne semaine. Essayez, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit en ce moment, mon Dieu, des choses épouvantables, essayez d'être heureux, essayez quand même. Profitez bien des journées qui passent, carpe diem, chaque journée est importante. On est d'accord là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Aux yeux, tu sais.